La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. François-Marie Arouet choisit de se faire appeler Voltaire alors qu'il est embastillé pour avoir critiqué le régent. Cet acte d'affirmation qui le fait passer de l'homme à Rouet à celui qui virevolte ou qui fait volte-face montre bien à quel point il a consciemment construit son personnage et sa légende. Au cours des 84 années qu'a duré sa vie, il a connu tous les succès et s'est fait aussi tous les ennemis, comme nous l'avons vu ici tout au long d'une série en 4 épisodes à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. La fantaisie et l'ironie de ces contes sont passés à la postérité, en particulier Candide, dont l'enseignement scolaire s'est emparé. Il faut dire qu'il a créé un genre, celui du conte philosophique, ainsi que nous l'a expliqué Christophe Martin au cours de notre deuxième épisode, et alors que nous tentions un parcours rapide de l'œuvre littéraire de Voltaire. Et puis dans l'épisode 3, c'est de l'Encyclopédie des Lumières dont il a été question en compagnie d'Olivier Ferré, qui nous a également parlé de l'affaire du Chevalier de la Barre, ce très jeune homme condamné à mort pour blasphème, affaire contre laquelle le philosophe Voltaire s'est violemment insurgé. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer le dernier moment de la vie de Voltaire, où il vécut à Ferney, nous sommes en compagnie de l'historien Richard Flamin, professeur à Los Angeles, plus exactement à la California State University Long Beach, également professeur à Berkeley, auteur notamment d'un essai intitulé « Voltaire à Ferney » chez Classique Garnier, avec comme sous-titre « Adresse à la postérité moderne », puisqu'il montre qu'à Ferney, eh bien, Voltaire pose les bases du modèle de l'intellectuel engagé tel qu'on va le connaître notamment au 19e et 20e siècle. On va en parler au cours de cette émission. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres.
Je voudrais trouver quelque Claude Lorrain qui peignit ce que je vois de mes fenêtres. C'est un vallon terminé en face par la ville de Genève qui s'élève en amphithéâtre. Le Rhône sort en cascade de la ville pour se joindre à la rivière d'Arve qui descend à gauche entre les Alpes. Au-delà de l'Arve est encore à gauche une autre rivière et au-delà de cette rivière, 4 lieues de paysage. À droite est le lac de Genève. Au-delà du lac, les plaines de Savoie. Tout l'horizon terminé par des collines qui vont se joindre à des montagnes couvertes de glaces éternelles éloignées de 25 lieues. Et tout le territoire de Genève semé de maisons de plaisance et de jardins. Si M. Hubert voulait s'amuser à peindre ce beau site, j'en ferais encore plus de cas que de ma découpure en robe de chambre.
Une lecture de Pierre Vernet. Bonjour Richard Flamin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes bien entendu allé visiter Ferney, que décrit Voltaire dans cette lettre envoyée à Claude-Henri Watelet en avril 1760. Vous êtes allé sur place, vous avez fait le pèlerinage comme tout le monde.
Oui, et également aux Délices, où Voltaire s'installe.
Sa maison de Suisse.
Voilà, en 1755, et il y reste jusqu'en 1765. Et c'est vraiment un grand moment de bonheur dans sa vie. Cette installation aux Délices, vous avez titré cette émission « Le dernier écrivain heureux hein, », eh bien c'est vraiment un véritable moment de bonheur. Après, je dirais, la vanille de Francfort, la fuite de Potsdam, il y a un moment d'incertitude, Voltaire arrive dans la soixantaine, et il s'installe donc aux Délices en 1755, et également à partir de 1757, il s'installe également à Lausanne, donc il y a une sorte de double résidence, vous voyez, Lausanne est plutôt sa résidence d'hiver, et là il a des activités théâtrales, parce qu'il loue une grange, et il organise des pièces de théâtre et a une sociabilité assez joyeuse.
Comme ce sera le cas à Ferney.
Tout à fait. Ouais. Et à partir donc de 58-59, là, il change un petit peu son fusil d'épaule et achète la seigneurie de Ferney et le domaine de Tournai, parmi d'autres choses, qui font de lui donc à la fois un seigneur et un comte.
C'est important ça qu'il devienne un seigneur et un comte ?
Pour lui c'est essentiel, c'est très important et on le voit par exemple dans la titulature. Vous savez, quand vous allez chez le notaire, vous devez donner votre titre. Alors la titulature a été étudiée par Fanny Cosendet dans un livre formidable qui s'appelle « Dire et vivre l'ordre social sous l'Ancien Régime ». Et voilà comment en fait se qualifie Voltaire dans les actes. Messire François-Marie Arouet de Voltaire, chevalier, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi et de l'Académie française, seigneur de Ferney, comte de Tournai, Prégny et Chambézy et autres lieux. Donc il ne plaisante pas du tout avec la titulature.
Non, il est même sensible, visiblement, à l'idée qu'il ne faudrait rien oublier de cette titulature.
Tout à fait.
Qu'est-ce que ça peut signifier, ça ?
Ah, ça signifie beaucoup de choses. Et ça nous dit que Voltaire n'arrive pas à Ferney par hasard. Si vous voulez, il faut pour cela prendre un peu de recul et s'intéresser à l'historiographie récente des mobilités sociales. Et on peut dire, et c'est une question qui a été récurrente dans vos émissions précédentes, est-ce que Voltaire est un bourgeois ? La réponse est oui, et sans hésitation.
Il est bourgeois de toute façon.
Il est fils de notaire, mais il a aussi l'ambition véritablement des bourgeois de son époque et surtout de la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui est un moment décisif en termes de dynamique sociale, d'une bourgeoisie qui souhaite s'annoblir. Et l'annoblissement est une composante extrêmement importante pour cette bourgeoisie. Bourgeoisie à talent, bourgeoisie riche, on verra que Voltaire est très riche. Et donc c'est une façon de traduire dans l'ordre social existant, une position sociale ascendante. Et vous voyez, vous connaissez certainement ce film qu'on a tous vu, Le Guépard, où il dit « il faut que tout change pour que rien ne change ». En réalité, au XVIIIe siècle, c'est exactement le contraire. Il faut que rien ne change, ça veut dire il faut que la bourgeoisie épouse les codes, les pratiques et la culture du monde aristocratique pour que tout change, en réalité.
Est-ce que dans l'esprit de Voltaire, l'annoblissement peut être aussi symbolique, c'est-à-dire un annoblissement par les lettres, par la célébrité ?
Alors, l'opinion de Voltaire va progressivement changer à Ferney sur cette question. Évidemment, il adore la célébrité, il adore la gloire et le succès. Le théâtre reste un de ses éléments de gloire absolue. Mais il va regarder un peu plus loin, parce que c'est un homme qui a 65 ans. Vous savez que pour l'époque, vous l'avez déjà dit bien des fois, c'est un âge qui est quand même déjà assez avancé.
D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il se lance dans des travaux alors qu'il a 65 ans. Il ne peut pas savoir qu'il va vivre très âgé. Donc, il a vraiment foi en l'avenir à ce moment-là.
Plus ou moins. Quand il acquiert, par exemple, le domaine à Palais d'Hélice, mais la terre de Tournai, un des arguments de vente qu'il oppose à Charles de Brosse pour faire baisser le prix de l'acquisition, il dit « mais je vous l'achète et à ma mort, je vous le restitue et je vous fais la promesse ferme de mourir dans les 5 ans. »
Vous voyez ? C'est presque un viager.
Voilà. Donc, non, il ne sait pas trop ce qui l'attend, mais il change sa relation parce que justement cette présence et cette urgence de la mort le fait regarder plus loin, par-dessus l'épaule de ses contemporains. Et c'est là que s'introduit l'idée de postérité.
On va revenir évidemment tout au long de cette émission sur cette idée qui est vraiment au cœur de votre livre, Richard Flamin. Mais parlons peut-être d'abord un petit peu de ce moment Ferney. Qu'est-ce que c'est d'abord que ce hameau, dont on a entendu une description dans la première lecture, où il n'y a en fait, quand Voltaire y arrive, qu'une quarantaine d'habitants. À quoi ça ressemble ?
Alors c'est une terre ingrate. C'est une terre difficile et Voltaire y arrive en costume de parade et carrosse, Madame Denis couverte de diamants. Il y arrive en seigneur, donc faire de Voltaire, l'opposant à la féodalité est une erreur. Vous voyez, il assume pleinement son rôle de seigneur. Oui. Et pour lui, Ferney est intéressante, non pas tant parce qu'il y a à Ferney, parce qu'il n'y a rien.
Alors, il y a quand même un vieux presbytère, quelques fermes isolées, une tuilerie à peine exploitée.
C'est juste. Mais ce qui l'importe véritablement, c'est de pouvoir endosser ce rôle du seigneur et surtout d'avoir une terre franche. Parce qu'il dit, c'est formidable d'être dans un pays libre. Là, il mentionne Genève et évidemment les autorités calvinistes avec lesquelles il est un peu en délicatesse, hein, depuis la publication de l'article Genève, qui n'a trompé personne. Mais il dit, c'est quand même mieux d'être chez soi. Et quand il dit chez soi, il ne dit pas en France. Il dit dans ses terres. Mm-hmm. C'est-à-dire un endroit où il peut éventuellement s'émanciper à la fois de l'administration française et surtout de l'administration fiscale.
Ces terres sont quand même en France.
Oui, tout à fait. Mais il va lutter toute sa vie pour s'émanciper de la tutelle de l'administration, notamment fiscale française. Il veut vraiment être libre chez lui.
Donc c'est un prince qui veut sa principauté.
C'est un patriarche qui vit dans son patriarcat.
Alors, sur Ferney encore, il y a précisément un peu l'idée qu'il va faire un développement économique de ce territoire, comme s'il en était presque le propriétaire, Richard Flamin. Comment s'y prend-il ?
Alors, pour parler vrai, Voltaire n'est pas un très bon entrepreneur.
Voilà. Pourtant, il est devenu riche.
Alors, il l'était avant. Et justement, c'est assez intéressant de comprendre à quel point il est riche. Voltaire n'est pas riche, il est richissime. Mmh. On a plusieurs estimations de sa fortune, notamment vous avez l'excellent livre de Louis Nicolardot, qui a été publié au XIXe siècle, « Ménage et finances de Voltaire ». Et on voit par exemple qu'entre 1760 et 1700, les années 70, sa fortune est multipliée par 3. Alors je vais être un petit peu technique, mais ça peut intéresser peut-être vos auditeurs.
Vas-y.
On va parler d'arriérage de rente. Mmh. Alors, l'arriérage de rente, c'est les intérêts de votre épargne, en quelque sorte. En 1760, les arriérages de rente, c'est à peu près 50 000 livres. Bon, dans les années 1770, on est à 150 000 livres. Si on calcule l'intérêt moyen de cette époque, ça fait un patrimoine de 2 à 3 millions de livres. C'est une fortune considérable. Le capital de la plus grande banque française en 1724, qui est Le Couteux et compagnie, est de 2,4 millions. De livres. Ça veut dire que son patrimoine est l'équivalent de la plus grande banque française 50 ans plus tôt. Mmh. Les deux grands banquiers, Télusson et Necker, qui sont les plus riches de France, ont le double de sa fortune. Donc Voltaire est une très grande fortune. C'est ce qui l'autorise finalement à bâtir Ferney comme il le fait, sans avoir un vrai souci de rentabilité.
Mais alors, qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'homme que l'on croit connaître, par rapport à Voltaire, qu'il soit fortuné à ce point-là ?
Ça permet, ça lui donne d'abord une indépendance complète. Il a dit, j'ai fait le métier de Voltaire, de Rousseau pendant très longtemps, c'est-à-dire il était un écrivain besogneux. C'était un peu compliqué. Maintenant, il n'a plus du tout cette approche-là. Il peut s'amuser à Ferney. Il bâtit des maisons comme quelqu'un l'a écrit, comme on commande une paire de chaussures chez le cordonnier. Donc, il développe Ferney. Il développe également l'industrie des montres. Vous savez qu'il a créé une manufacture royale des montres de Ferney, dans laquelle il investit énormément d'argent, mais qui fonctionne sur son entregent, c'est-à-dire qu'il vend les montres essentiellement à la noblesse, à ses amis des cours, aux princes.
Parfois, il pousse même un peu à l'achat.
Un peu, oui. C'est un bon commercial.
Donc un bon commercial, mais pas un bon entrepreneur.
Non, on ne peut pas dire qu'il... En revanche, il sait placer sa fortune entre de bonnes mains, et ses Tronchins, son banquier, c'est une dynastie, les Tronchins à Genève, extrêmement importante, et c'est ce qui le rapproche aussi de Genève. Théodore Tronchin est son médecin, c'est un excellent médecin, et François Tronchin est son banquier. Et c'est un excellent banquier puisqu'il triple ses arriérages de rente en l'espace de 15 ans.
Est-ce que cet aller-retour entre la Suisse et la France, l'exil en Angleterre, peut faire qu'on considère qu'au fond, Voltaire est un peu protestant dans l'âme, en tout cas comme Weber l'a théorisé plus tard dans l'éthique du capitalisme.
Je suis en désaccord avec la thèse de Weber. En fait, c'est une thèse qui maintenant qui a fait autorité pendant très longtemps. Et depuis les travaux de Michel Zilberberg, on a montré qu'il y avait un capitalisme catholique qui était tout aussi performant et qui fonctionnait très bien. Donc non, je ne dirais pas que Voltaire épouse d'une certaine façon la cause. Mais c'est quelqu'un qui se sent la fibre, on va dire, physiocrate. C'est-à-dire une sorte de libéralisme qui pourrait conduire à une harmonie sociale. Voilà.
Il y a ça quelques années, je me trouvais à Genève et pour la énième fois... Je conçus le projet de me rendre au château de Ferney que Voltaire habita pendant quelques années. Ravissante maison, bien émouvante d'autre part, et qui appartient à des gens qui sont les plus courtois du monde et qui se laissent visiter sans témoigner d'impatience. Conduisant ma voiture, je m'étais fait des illusions et m'étais égaré en sortant de Genève. Dès lors, je me suis mis à demander mon chemin aux gens que je croisais. Je demandais « Ferney ?» On me répondait « Ferney ?»« Oui, où est la maison de Voltaire ?»« Ah, bah alors dites Ferney-Voltaire, c'est la deuxième route à droite. » Un peu plus loin, je demandais « Ferney-Voltaire, la première à gauche ?» Bientôt, je me contentais de demander « Voltaire ?» Et c'est alors que me fut donnée une réponse inouïe. Je demandais « Voltaire ?» et quelqu'un me répondit « Un peu au-dessus de l'église. » Voltaire au-dessus de l'église, avouez que c'était inespéré.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Sacha Guitry évoquant son pèlerinage à Ferney, ou plutôt devrait-on dire à Ferney-Voltaire, car c'est un village qui a été rebaptisé, Richard Flamin. Et ce pèlerinage, il a commencé très très tôt. En fait, il commence alors que Voltaire est toujours vivant.
Oui. Alors, l'intérêt de Ferney, ce qui fait son étrangeté, sa singularité du domaine de Ferney, c'est que pour un bourgeois anobli tel que Voltaire, avec son niveau de fortune, on devrait avoir une multirésidentialité. Et la chose ne se fait pas. C'est-à-dire que tout est superposé à Ferney. Ça veut dire que c'est à la fois sa résidence principale, comme le serait probablement un hôtel particulier au centre de Paris s'il pouvait y vivre. C'est aussi ce qu'on appelle le country house, c'est-à-dire la maison de la périphérie urbaine où on invite ses amis, où on entretient un salon. Donc il souhaite faire un salon décentralisé. Et c'est aussi la seigneurie éponyme, hein, sur laquelle se fait le nom. Et là, en l'occurrence, c'est une démarche inverse. Ce n'est pas Ferney qui donne son nom à Voltaire, mais bien Voltaire qui donne son nom à Ferney.
À quelle époque, à quel moment?
Alors, c'est au XIXe siècle que la chose devient officielle, mais il est entendu déjà à la fin du XVIIIe siècle que les noms de Ferney et de Voltaire sont indissociables.
Oui. Donc, pour faire salon, évidemment, quand on s'est installé à la campagne, il faut faire venir des gens. Mais c'est comme si les personnes se déplaçaient de leur propre volonté, de leur propre gré, pour aller d'eux-mêmes voir Voltaire à Ferney.
Alors, j'aimerais dire que Ferney, ce n'est pas tant ce qui s'y passe qui importe que ce qui s'y dit. D'où parle-t-on quand on parle depuis Ferney? Alors, j'aimerais avoir déjà deux réserves, parce que le salon de Ferney est un salon décentralisé, si vous voulez. C'est tout de même une capitale de la République des Lettres qui est un peu en exil. Alors, la grande différence avec un salon tel qu'on peut le voir chez Madame Dudéfant ou Madame de l'Espinasse ou Madame Geoffrin, c'est qu'il n'y a pas d'habitués. Les gens passent et ne restent pas. Et c'est la grande peine de Voltaire qui change à cet égard vers 1768. Si vous voulez, pour la sociabilité fernésienne, vous avez deux périodes. Vous avez avant 68 et après 68, donc à peu près en deux tranches de 10 ans. Avant 68, Voltaire se dit véritablement l'aubergiste de toute l'Europe. C'est-à-dire que tout le monde vient le voir.
Donc, tout le monde, ça veut dire aussi bien des têtes couronnées que des personnes qui n'ont aucun titre particulier?
Tout à fait. Mais ils ont tous en commun une certaine ingratitude. Ça veut dire que Voltaire les reçoit, et parfois de façon assez fastueuse. Certains restent très longtemps, parfois un mois ou plus, s'en vont et oublient. Donc il a une certaine amertume à partir de 1768, en disant « j'ai vraiment été pendant 10 ans l'aubergiste de l'Europe ». Donc ce n'est pas tout à fait le salon dont il rêvait. Et à partir de là, il va beaucoup plus et beaucoup mieux organiser sa sociabilité à Ferney. Il va véritablement souhaiter, d'une certaine façon, hiérarchiser les choses et donner la priorité à l'écriture.
Mais n'est-ce pas quand même un outil d'influence? Peut-être qu'il y a de l'ingratitude de la part des gens qui passent, mais ce qui s'y est dit est forcément diffusé comme ça à travers l'Europe, non?
Alors, c'est intéressant, c'est une question très intéressante, parce qu'en fait, si vous voulez, ces visites à Ferney, ces témoins de Ferney vont avoir un effet par ricochet. Ça veut dire que beaucoup de visiteurs, je donnerai deux exemples, par exemple Madame de Genlis ou Étienne Jouy, qui visitent Ferney dans les années 1770, ne vont publier leur mémoire qu'au début du 19e siècle. Donc on comprend bien qu'avec un décalage de presque 40 ans, parfois plus, 50 ans, c'est une image reconstruite de Ferney. C'est une image totalement reconstruite. Et Voltaire n'a pas, d'une certaine façon, le contrôle de ce qui se dira sur ce passage à Ferney. Alors vous avez des gens bienveillants, des admirateurs, comme Madame Suard. Son mari est académicien, il doit sa carrière à Voltaire. Et eux sont véritablement des membres du Sérail, si vous voulez, d'Alembert, Diderot, etc. Et puis vous avez les admirateurs un peu curieux qui viennent à Ferney, alors, qui peuvent être honorés ou pas d'une rencontre avec Voltaire. Alors avant, dans les années 1760, c'est possible, c'est assez fréquent. Après, c'est beaucoup plus difficile.
Voilà. Tout le monde ne loge pas au château de Ferney.
Non, bien entendu. Et surtout, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le rencontrer. Donc il se fait de plus en plus rare, en fait. Il y a même une certaine curialisation de la vie à Ferney. Il y a une très belle description de Moultou qui dit, mais à un moment donné, il sort de son bureau, les gens se mettent en rang, il traverse le salon. Et s'il est de bonne humeur, eh bien, il va saluer la foule à la grille du château. Voilà, c'est Louis XIV.
C'est ça. Alors, il est arrivé au fond à ses fins, parce qu'il y a une volonté d'ascension sociale chez Voltaire, qui est très forte. Vous avez commencé l'émission en le soulignant, Richard Flamin. Et là, c'est le roi, c'est le prince de Ferney. On vient le voir et il fait comme ça son apparition. Il est salué, il salue. C'est tout à fait un monarque.
Et en même temps, c'est un monarque qui peut être moqué. Alors vous avez notamment les publications par Bachaumont, vous avez énormément de publications à Paris qui tiennent la chronique de tout ce qui se passe à Ferney. Et on se rend compte aussi que ces visiteurs peuvent avoir un regard très irrévérencieux sur le patriarche. Ils n'ont pas toujours un regard... Moultou s'amuse beaucoup de sa façon de s'habiller. Il met des vêtements très luxueux, mais qui ne vont pas ensemble.
Non, c'est juste qu'il est en avance sur la mode, sans doute.
Voilà, exactement. Et, ou alors encore, vous avez Isabelle de Charrière qui s'étonne, qui dit « Mais il est moins laid, moins hâve qu'on me l'avait décrit. » Vous voyez, donc c'est des visites qui finalement, avec lesquels Voltaire va prendre un peu ses distances, parce que c'est un peu l'animal de foire ou la bête curieuse.
Évidemment. Alors, le mot d'intellectuel n'existe pas encore en tant que tel, et pourtant, à vous lire, on a le sentiment que c'est là que se crée un petit peu le concept d'intellectuel.
Oui, alors il faut pas faire d'anachronisme en fait, si vous voulez. Je me suis toujours beaucoup gardé de faire une espèce de filiation de Voltaire à Sartre. Vous voyez, je ne crois pas du tout à cela.
D'autres l'ont fait pour vous ?
Je ne pense pas à ma connaissance, et c'est une chose sur laquelle il faut être très prudent. La temporalité n'est pas la même. Ça veut dire que quand Voltaire arrive à Ferney, le contexte n'est pas très bon, si vous voulez. Vous avez le scandale de l'article de Genève, vous avez l'offensive antiphilosophique après l'attentat de Damiens qui a tenté de tuer le roi, vous avez l'interdiction du livre d'Helvétius en 1758 de l'esprit, et vous avez enfin, en mars 1759, vous avez l'encyclopédie qui est interdite à son tour. Donc quand Voltaire s'installe à Ferney, le contexte n'est pas du tout favorable, je dirais, à une expression intellectuelle libre. Il faut bien remettre les choses en l'état. Et en ce sens, Olivier Ferré avait tout à fait raison hier de finir son intervention sur une note pessimiste. Parce qu'effectivement, pour les intellectuels de cette époque, et je pense aussi bien à Diderot, également à Rousseau, ils n'ont que peu à espérer de la génération et de l'époque dans laquelle ils vivent.
Mais tout de même, il y a dans la posture de Voltaire un peu héroïque, quelque chose qui fait penser... Alors, peut-être pas à Sartre directement, mais qui fait penser à la prise de position des artistes, des intellectuels, en faveur d'une grande cause. C'est évident avec l'affaire Calas, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même quelque chose d'une posture, peut-être même d'un mode de vie, qui pourrait faire penser aux intellectuels modernes ?
Alors, il y a un paradigme qui se met en place, qui n'existait pas avant. Voyez, l'image du philosophe, Voltaire rédige une mort de Socrate en 59, c'est le retrait du monde et l'acceptation de son sort. C'est-à-dire que le monde des idées est supérieur à toute chose, ce serait un peu l'arrière-monde du philosophe. Voltaire ne voit pas du tout les choses comme ça. Il n'est pas du tout prêt, comme Socrate, à boire la ciguë. Il est plutôt prêt à se battre et à en découdre avec son époque. Donc ça en fait déjà une figure un peu différente. Après, si vous voulez parler des affaires dans lesquelles Voltaire s'engage dès 1761-62, donc on est dans les quatre premières années de l'installation à Ferney, et ça arrive très vite. Là, c'est une autre expérience qui se met en place. Si vous voulez, Voltaire a l'expérience de l'opinion publique. C'est quelqu'un qui se débat avec son image. Vous savez, on a mentionné dans le premier petit texte qui a été lu, Jean Hubert. Oui. Jean Hubert est un ami de Voltaire, mais qui le caricature à longueur de journée et qui diffuse de lui une image ridicule. C'est celle qui nous est restée. C'est celle du patriarche, vous savez, un peu efflanqué, grimaçant, traîné. Cette image n'est pas tout à fait exacte, mais il dit qu'il sait tout à fait la dose de ridicule qu'il lui faut pour devenir tout à fait célèbre.
C'est aussi sa statue qui a donné cette image, sa statue qui a été jugée un petit peu ridicule d'ailleurs, faite en marbre, mais de son vivant, qui a laissé cette impression un petit peu ridicule de Voltaire.
Et donc, si vous voulez, et tout à fait, c'est la statue de Pigalle, hein, le Voltaire nu de 1776, qui est une statue formidable. Mais Voltaire s'est débattu avec son image pendant, et connaît finalement les faiblesses de l'opinion publique. Il sait que, alors c'est ce que John Ruston Saul appelle les bâtards de Voltaire, dans son livre publié en 1993, qui est un livre formidable, où il montre que l'opinion publique moderne n'est pas forcément faite de gens éclairés. C'est aussi un troupeau de gens avides de nouveautés, prêts à, à suivre n'importe quelle idée pour peu qu'elle soit un peu séduisante ou à la mode. Oui. Donc vous voyez que la démarche de l'intellectuel est un peu complexe.
On va continuer de parler de tout cela avec vous, Richard Flamin, mais pour l'heure, c'est le moment de faire un tour par la carte blanche du jeudi.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et aujourd'hui, notre carte blanche est proposée par vous, Stéphanie Genon. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être là. Vous êtes 18e-iste et professeur à l'Université de Bourgogne. Voltaire est cher à votre cœur et vous avez intitulé votre chronique d'aujourd'hui justement « Réchauffer le marbre », autrement dit faire revivre la flamme de Voltaire, c'est ça ?
Oui, ce serait plus exactement réapprendre à l'aimer et réapprendre à aimer les Lumières, parce que finalement Voltaire a beaucoup d'admirateurs, les Lumières aussi, mais les deux ne suscitent que très peu de sympathie. Je crois qu'on n'aime pas Voltaire au fond. Et on n'aime pas forcément les Lumières parce qu'on les juge un peu à l'image du marbre glacial.
Alors vous proposez trois pistes justement pour réchauffer ce marbre trop froid.
Oui, la première piste, et Voltaire en est la victime, c'est qu'il faut arrêter de considérer, ça a été très bien dit par Olivier Ferret hier soir et par votre invité il y a quelques minutes, que les Lumières sont, et Voltaire en serait l'emblème, le triomphe d'une raison arrogante, sûre d'elle, le triomphe des évidences, des universalismes triomphants, enfin quelque chose d'insupportablement prétentieux. Les Lumières sont un temps de doute, sont un temps de combat, sont un temps d'inquiétude, et ça a été très bien rappelé il y a quelques instants, les Lumières se battent, et sont un groupe d'humains qui tentent, plutôt que d'imposer des valeurs, de défaire les préjugés, c'est-à-dire que c'est plutôt un mouvement qui cherche à nous débarrasser de ce qui nous encombre qu'il ne cherche à imposer, vous voyez, des valeurs positives. Donc je pense qu'il faut rendre aux Lumières d'abord un peu de leur chaleur, au sens un peu de leurs incertitudes.
Alors une seconde piste pourrait être d'en finir avec l'ironie trop glaçante.
Oui, parce que ben, moi je fais partie aussi d'une génération de gens qui ont d'abord, avant d'être 18e-iste, c'était des étudiants, des élèves de secondaire, et pour qui, a priori, Voltaire apparaît comme quelque chose de très froid. Et ensuite j'ai travaillé sur des auteurs du 19e siècle, ou Germaine de Staël, qui nous disent que Voltaire est la grimace glacée. Et on a du mal à imaginer qu'il y a de l'humanité dans tout ça. En réalité, ce qui rend Voltaire sympathique, ce qui le rend même bouleversant, y compris dans ses contes les plus célèbres, et surtout même, je pense à Candide, c'est l'humanité, la souffrance à vif qu'il caractérise. Marc Hersant a écrit un remarquable ouvrage, il y a quelques années, qui s'appelle « Voltaire, subjectivité, vérité ». Il utilise cette formule, il dit « Voltaire est un homme à vif ». Et je crois que c'est l'ironie, en réalité, n'est que la réaction à une souffrance. C'est-à-dire qu'elle agresse, ce qui nous a d'abord agressés. Et Voltaire est un homme blessé, un homme à vif, un homme qui saigne de tout ce qui se passe à son époque et qui du coup par réaction attaque. Mais vous voyez, la corrosion voltairienne et que la réplique a une vraie blessure profonde, insupportable chez lui.
Et puis une troisième piste pour réchauffer ce marbre, ce serait d'en finir avec l'idée du dernier écrivain heureux que nous avons nous-mêmes repris comme titre pour cette émission. Stéphanie, qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Alors, c'est une, vous le savez, c'est une phrase de Roland Barthes qui s'inscrit aussi dans un contexte, qui dit que Voltaire est heureux parce qu'il n'a pas connu la Shoah, parce que Voltaire appartiendrait, dit Barthes, à une époque où les choses étaient évidentes, où on savait clairement ce qu'était le bien et le mal. Mais c'est faux. Barthes le dit pour des raisons stratégiques qui lui sont propres dans son contexte, mais en réalité, Voltaire, au contraire, ça vient d'être rappelé, vit à une époque où tout est très ambigu, et ce qu'on voit très bien d'ailleurs dans ses héros, Zadig, aussi bien que Candide, deviennent des meurtriers au hasard de leurs aventures, c'est-à-dire qu'on peut très bien être éclairé, être habité aussi par, par la violence, on peut très bien être européen et être sauvage, on peut très bien être français et commettre les pires outrages. Autrement dit, rien n'est évident, et c'est... Cette inquiétude a rendu Voltaire mélancolique, a rendu Voltaire très, très anxieux. Son dernier texte s'intitule quand même « Le philosophe ignorant ». Moi, si on m'avait dit ça quand j'avais 16 ans, j'aurais trouvé ce personnage bien plus troublant que ce qu'on nous vend comme, voyez, l'arrogant ironiste. Le philosophe ignorant, c'est celui qui sait une chose, c'est qu'il ne sait pas et qu'il n'arrivera pas à faire advenir la raison, ni c'est-à-dire la modération, c'est-à-dire la fin des préjugés au sein de l'humanité. Vous voyez, c'est ça, c'est en ça que c'est un écrivain qui souffre, et c'est ça, je trouve, qui le rend si intéressant.
Merci beaucoup, Stéphanie Genant. Je me tourne vers vous, Richard Flamin. Vous êtes d'accord, il faut réhumaniser comme ça Voltaire?
Alors oui, tout à fait. Et le problème, c'est que l'image de Voltaire qui nous est parvenue est une image extrêmement corrompue, dans le sens où elle est passée, et on va peut-être en parler, par des prismes qui l'ont profondément déformée. Prisme de la Révolution française, prisme du retour de la République, donc Voltaire au prisme du républicanisme. Voltaire et la liberté, en 1944, quand Paul Valéry dit « je n'ai pas dit de Voltaire ce que j'en voulais, mais ce que les circonstances exigeaient que j'en dise ». Et puis enfin, le Voltaire mis à contribution à nouveau sur les questions de fanatisme et d'intolérance, plus récemment.
Tout ça, ce sont, si ce n'est des erreurs, en tous les cas, des contresens. On va essayer, dans la dernière demi-heure qui nous reste, d'évoquer certains de ces points. Compagnie des œuvres sur France Culture, dernier épisode de notre série Voltaire. Mon invité est Richard Flamin.
Et un travail, ce n'est pas seulement le fait du génie littéraire. Le travail de Voltaire, préparatoire à son entrée en scène, la prise de connaissance des éléments du dossier, l'audition, il est à ce moment-là à Ferney, proche de Genève, où se sont réfugiés les deux frères Calas qui sont encore là, et Voltaire fait d'abord sa conviction avant de publier, sous des noms d'ailleurs évidemment d'emprunt, les premiers mémoires. Mais il ne fera pas que cela, il va convaincre les meilleurs avocats du temps, trois très grands avocats du temps, de publier des mémoires qui sont conformes à la tradition et aux, je dirais, aux formes judiciaires en faveur de Calas et des enfants Calas, pour la révision de l'un et pour l'acquittement ou l'établissement de l'innocence des autres. Et ils le feront pourquoi ? Parce que c'est Monsieur de Voltaire. J'ajoute que Voltaire, d'ailleurs, c'est lui qui réglera aussi les honoraires. C'est une cause qu'il porte, qui devient la sienne, et qui sera d'ailleurs reconnue comme telle dans la gloire de Voltaire en son temps. Il n'y a pas que les œuvres littéraires ou les écrits philosophiques, c'est d'abord comme défenseur de l'innocence condamnée. C'est d'abord le défenseur de la famille Calas que l'on salue, que l'on honore. Et quand Voltaire, ses cendres seront transférées au Panthéon, Madame Calas, qui vivait encore, sera là au premier rang. Il est le défenseur de l'innocence outragée. Titre de gloire admirable que nul écrivain n'avait eu avant lui et que beaucoup ensuite songeront à revêtir, généralement sans son génie.
Une réaction, Richard Flemin, sur cette archive de Robert Badinter qui était interrogé ici par Adèle Van Rett.
Alors, c'est tout à fait juste. J'aimerais dire deux choses. La première, c'est que Voltaire est un travailleur acharné à Ferney. On pourrait penser qu'il prend sa retraite quand il arrive aux Délices, qu'il a envie de jouir un peu de la vie, de sa fortune. Mais assez vite, il se met au travail et travaille véritablement durement. Et on a quand même une série de témoignages convergents qui montrent qu'il travaillerait entre 14 et 17 heures par jour. Et je dirais que, excusez-moi, c'est peut-être le côté historien qui ressort, mais on peut faire une statistique du nombre de ses publications. Je dirais qu'entre 1730 et 1760, il publie entre 5 et 15 titres par an, ce qui est déjà beaucoup. Alors évidemment, il y a de très gros livres, mais il y a aussi des lettres, des épîtres, des pamphlets. À partir de 1760, donc installation à Ferney, on passe entre 15 et 30 nouveaux titres par an. Donc c'est quelqu'un qui travaille énormément, c'est quelqu'un qui va travailler de plus en plus, qui s'épuise.
Parce qu'il souhaite laisser quelque chose, il souhaite laisser une empreinte qu'il dirige pour que la postérité soit orientée de la manière qui lui convient le mieux.
C'est tout à fait juste, en fait. L'erreur qu'on commet souvent, c'est de considérer que les hommes du passé vivaient dans un présent continuellement changeant, c'est-à-dire on étudie 1789, 1815, etc., et on considère toujours le présent sur la chronologie. En fait, ces hommes avaient eux-mêmes une vision du passé. Ils avaient également une certaine densité du présent et bien évidemment, ils avaient aussi une vision du futur. Et ça, c'est tout à fait important de prendre ça en considération. Parce que si il y a, à mon sens, une subversion de l'ordre social par la mobilité sociale, il y a également une subversion des ordres de grandeur d'Ancien Régime à travers la façon dont les écrivains se repositionnent dans la société.
Alors, quelle image souhaite-t-il que l'on retienne de lui plus tard après sa mort ?
Alors, comme on l'a dit dans la première partie de l'émission, il désespère un peu de son époque. Il n'est pas le seul. Diderot, Rousseau en sont à peu près aux mêmes conclusions. Mais lui décide de mettre son œuvre en ordre de bataille. Ça veut dire que c'est peut-être une erreur de dissocier, par exemple, les écrits philosophiques, d'un côté, les contes moraux ou les romans, du merveilleux ou de l'exotisme, hein, d'un autre côté, et puis d'un troisième côté, l'engagement. Tout cela fonctionne ensemble. L'idée est progressivement de porter son regard au-dessus de l'épaule de ses contemporains et de mettre l'œuvre en ordre de bataille. Il y a une certaine symétrie entre les écrits philosophiques et les romans philosophiques ou les contes philosophiques. Les écrits philosophiques, finalement, partent du réel pour donner une certaine feuille de route aux générations futures, en montrant quelle est la direction à suivre. Voltaire est dans ses 70 ans passés, il est temps de penser à l'avenir. Et donc, il donne des indications sur ce qu'il aimerait que la société devienne.
Alors, quelles indications donne-t-il ?
Alors, évidemment, on retrouve que ce soit dans ses écrits philosophiques ou dans ses contes philosophiques, les mêmes chevaux de bataille, c'est toujours les mêmes. C'est évidemment la lutte contre le fanatisme, c'est la lutte également contre l'arbitraire du pouvoir royal, c'est également la lutte contre l'obscurantisme, la superstition. Ce sont toujours les mêmes idées, finalement. On les habille simplement différemment, que ce soit par ordre alphabétique dans le dictionnaire philosophique ou que ce soit sous la forme d'un doux exotisme. Il ne faut pas oublier que Voltaire croit plus dans les petits livres à 30 sous que tout le monde peut s'offrir que dans la grosse encyclopédie qui coûte si cher que si peu de gens peuvent s'offrir.
Et pourtant, on a dit plus tôt dans cette série d'émissions que les contes philosophiques n'étaient pas pour lui considérés comme étant le centre de son œuvre. Or, en vous écoutant, on a l'impression que finalement, il a eu l'idée que pour diffuser sa pensée, finalement, il fallait qu'elle soit un petit peu amusante, comme c'est le cas par exemple de Candide. Et de fait, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est resté à la postérité. Est-ce que vous pensez qu'il a eu, contrairement à d'autres intervenants, peut-être plus tôt dans la semaine, lui, l'intuition que c'était très important et que ça allait rester, ces contes philosophiques ?
Je pense que ça fait partie d'une stratégie d'ensemble. C'est une polyphonie, Ferney. Le travail fernésien, d'où l'on parle, c'est une polyphonie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer le conte philosophique au travail sur le dictionnaire philosophique, et encore moins l'engagement. Tout cela fait partie de la même, comme je l'ai dit, mise en ordre de bataille. Il s'agit, de, comme le dit Voltaire, de mettre en place une machine de guerre contre le fanatisme, contre l'obscurantisme et le pouvoir royal. Donc tous les outils sont bons à utiliser. Et ça permet notamment de jouer des registres, registres dont on a parlé cette semaine, comme l'ironie.
Pour cibler des publics différents, ou est-ce qu'il n'est pas à ce niveau de raffinement ?
Voltaire connaît bien ses publics. C'est un homme qui est quand même rompu à l'exercice de la publication, de la réception des œuvres, par le théâtre. Non, il a une expérience qui lui permet quand même de sentir, il a une très très grande finesse dans l'évaluation de ses publics et dans l'impact de ses œuvres. Il s'amuse à les publier d'ailleurs sous des noms improbables, Ralph pour Candide. C'est le docteur Ralph qui est l'auteur de Candide. Il y a d'ailleurs toute une plaisanterie ensuite. On retrouve des documents sur le docteur Ralph qui serait mort, qui permet la seconde édition de Candide, etc.
Alors est-ce qu'il parvient finalement à ses fins? Parce que il y a un certain nombre de contresens justement que vous évoquiez avant la chronique, ou juste après la chronique de Stéphanie Genant. Alors quels sont ces contresens finalement? Où est-ce qu'on comprend mal? Où est-ce qu'on déforme? Où est-ce qu'on a déformé Voltaire au fur et à mesure des époques, au fur et à mesure de sa réception, Richard Flamin?
Alors j'introduis le livre par une autre idée de Roland Barthes, qui est celle du biographème. Le biographème, c'est le patriarche. C'est-à-dire une image tellement forte...
Alors redites-nous, donc le biographème, c'est un passage obligé d'une biographie?
Alors, c'est une image très condensée, très forte. C'est un peu comme la Madeleine de Proust, si vous voulez. C'est quelque chose qui occulte tout le reste. C'est un peu comme si vous aviez une lumière tellement éclatante qu'elle vous aveugle. Donc, on a ce patriarche devant nous, et finalement, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à déconstruire. Et autour de l'image de ce patriarche, qui s'est forgé à Ferney, et progressivement, à travers les œuvres de Jean Hubert, à travers, je dirais, la correspondance, à travers... Donc, on a une image assez dense et très forte, autour de laquelle se sont, je dirais, agrégées, resserrées toutes les autres. Ce qui fait que on arrive presque à une caricature dévoyée, en fin de compte, et à ce que j'appelle les lumières commerciales, c'est-à-dire des images complètement dépréciées, dévalorisées de Voltaire. Voltaire n'est plus qu'une image, et on ne sait plus très bien à quoi elle correspond.
Est-ce que ce n'est pas le destin de tout homme de lettres qui a du succès?
Peut-être.
Mais quelles seraient ces différentes images commerciales? Par exemple, celle de la révolution, de l'inspirateur de la révolution?
Alors là, je vais vous poser une question qui n'appelle pas de réponse, bien entendu. Mais pensez-vous vraiment que ce soit la pensée des Lumières qui est véritablement dirigée, organisée, la Révolution française?
Il faudrait être historien pour le dire.
Ou ne pensez-vous pas que ce pourrait être plutôt la Révolution qui réutilise, réemploie l'idéologie des Lumières afin de construire un programme politique? Quand on porte Voltaire au Panthéon, finalement, quel est l'objectif? Voilà. Il s'agit de créer de nouveaux héros pour une patrie renaissante avec une définition nouvelle, donc de s'éloigner de l'ancien monde et de créer les nouvelles icônes.
Mais on aurait pu choisir d'autres des héros.
On l'a fait. Mais certains ont été dépanthéonisés, comme par exemple Mirabeau ou Marat. Voyez. Et Voltaire, étrangement, est resté. Parce que Voltaire fait partie, certainement, il est tout à fait en phase avec l'opinion publique en 1791, cette espèce de monarchie tempérée, vous voyez. Je ne sais pas s'il aurait été en phase deux années plus tard avec la Terreur, par exemple, vous voyez.
Donc il a été panthéonisé exactement au bon moment, une fenêtre s'est ouverte.
Voilà. Et là, on doit beaucoup à Villette, à son ami Villette, qui est un peu dans l'obscurité, je trouve, de la biographie fernésienne. Mais c'est un homme d'une fidélité, d'une loyauté à toute épreuve. Ça veut dire qu'il reprend Ferney après la mort de Voltaire. Et il a un courage immense. Il essaye d'en faire un mausolée à la mémoire de son ami. Il échoue parce que c'est difficile. Il n'a pas les moyens de Voltaire non plus. Donc tenir un domaine comme Ferney sans avoir la fortune de Voltaire, c'est compliqué. La vie à Ferney n'est pas simple non plus, vous savez. Il fait froid.
On peut se chauffer quand même puisqu'on a beaucoup de bois.
Il y a du bois. Il y a 93 hectares de bois. Mais cela dit... je dirais que Villette, en abandonnant Ferney en 1785 au Budet, qui récupère une propriété qui leur appartenait avant, ne perd pas de vue l'objectif qui était celui de Voltaire, d'une postérité après sa mort. Mais le projet, finalement, ne se réalisera pas à Ferney, il se réalisera à Paris. Et Villette a été un acteur majeur de du transfert des cendres de Voltaire au Panthéon.
Oui, oui, parce que Voltaire, au fond, aurait souhaité être enterré à Ferney. Alors, comment se fait-il que ça ne soit pas arrivé?
Ah, c'est de la faute de l'Église. Voltaire avait prévu de mourir à Ferney, mais rien ne s'est passé comme prévu, en fait. Alors, pas exactement à Ferney, il voulait mourir en Suisse, il avait loué une maison près de Prangin à cet effet, mais rien ne s'est passé comme prévu, finalement. Et le problème, c'est que durant son agonie, l'Église a souhaité une rétractation complète. Et là, c'est un vrai combat pour la postérité, parce que s'ils l'obtiennent, ça veut dire qu'il renie toute son œuvre. Et donc, vous avez D'Alembert, vous avez Duvernet, vous avez plusieurs amis de Voltaire qui font barrage en disant non, Voltaire ne fera pas ça. Et donc, la longue agonie de Voltaire est assez pénible sur ce point. Voilà, donc, et comment dire, Voltaire ensuite, si vous voulez, va retrouver, donc il ne sera pas enterré à Ferney dans son pavillon des bains comme il le souhaitait, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas être enterré du tout. C'est-à-dire que personne ne peut le mettre en terre.
Oui.
Donc il est emporté secrètement vers l'abbaye de Sellières, où son neveu Mignot peut l'enterrer presque en catimini. Donc c'est un philosophe sans sépulture, quasiment.
Alors la postérité de Voltaire, on l'a dit, elle tient à son œuvre, mais elle tient aussi beaucoup à ses engagements.
Au cardinal François Joachim de Pierre de Berny. Lisez cela, monseigneur, je vous en conjure, et voyez s'il est possible que les Calas soient coupables. L'affaire commence à étonner et à attendrir Paris, et peut-être s'en tiendra-t-on là. Il y a d'horribles malheurs qu'on plaint un moment et qu'on oublie ensuite. Cette aventure s'est passée dans votre province. Votre éminence s'y intéressera plus qu'un autre. Je peux vous répondre que tous les faits sont vrais. Leur singularité mérite d'être mise sous vos yeux. À Étienne Noël d'Amilaville. Vous devez avoir reçu le mémoire des Sirvins. Rien n'est plus clair. Leur innocence est plus palpable que celle des Calas. Il y avait du moins contre les Calas des sujets de soupçon, puisque le cadavre du fils avait été trouvé dans la maison paternelle, et que le père et la mère avaient nié d'abord que ce malheureux se fût pendu. Mais ici, on ne trouve pas le plus léger indice. Que d'horreur, juste ciel! On enlève une fille à son père et à sa mère, on la fouette, on la met en sang pour la faire catholique, elle se jette dans un puits, et son père, sa mère et ses sœurs sont condamnés au dernier supplice. On est honteux et on gémit d'être homme quand on voit que d'un côté on joue le péracomique et que de l'autre le fanatisme arme les bourreaux. Je suis à l'extrémité de la France, mais je suis encore trop près de tant d'abominations.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Parlons peut-être un peu de ces deux affaires, l'affaire Sirvin et l'affaire Calas, Richard Flamin, parce que on a l'impression qu'on est là au cœur de ce qui crée le grand homme, la postérité du grand homme. Est-ce que c'est votre sentiment?
Alors, ce sont deux affaires. Calas, c'est 61-62, 1761-1762. Sirvin, c'est 1764. Ce sont deux affaires qui sont un peu superposables. Ce sont à la fois des
affaires... même étrangement ressemblantes par certains aspects.
Presque symétrique, tout à fait. Ce sont deux problèmes à la fois d'infanticide et de conversion de Huguenots au catholicisme. Autrement dit, on suspecte les parents, enfin plus que ça, on les accuse et on les condamne, d'avoir tué leurs enfants parce qu'ils souhaitaient se convertir. Donc ces deux affaires... alors, il faut quand même bien situer les choses. Voltaire ne croit pas plus au catholicisme qu'au protestantisme. Aucune religion ne trouve grâce à ses yeux. Donc,
il croit en Dieu.
Oui. Mais si vous voulez, il n'a pas plus de faveur pour les protestants que pour les catholiques. Il pense que ce sont... et si vous voulez, ces affaires, en tout cas, on a vu qu'il y avait une transgression de l'ordre social, une transgression de la norme des valeurs avec la promotion de l'écrivain. Et là, il y a vraiment une transgression de la justice. C'est-à-dire que pour la première fois, je dirais que, alors on va utiliser le terme, même s'il est un peu anachronique, l'intellectuel surgit, je dirais, dans le monde judiciaire et se propose de faire justice. Il y a une gravure qui est fantastique où on voit Voltaire au pied d'un chêne, entouré par la famille Callas et levant sa plume, en fait. Et on voit bien ici le parallèle avec Saint-Louis, si vous voulez, rendant la justice. On a ici véritablement une substitution du philosophe roi au roi tout court, hein, qui ne remplit plus sa fonction pour le bien des peuples.
Donc il y a une transgression de la justice qui là pourrait faire penser, alors continuons dans les anachronismes et peut-être les approximations, mais qui fait penser à Zola?
Oui, je crois que Voltaire nous offre plus que des affaires, il nous offre un comportement face à la justice, une attitude, un paradigme, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut dupliquer et répliquer à l'infini. Et ça, c'est formidable. Je dirais que il y a un mouvement de l'aura qui part de l'œuvre de Voltaire et qui se déplace vers lui, parce qu'il l'a réécrit sans arrêt, son œuvre, pour l'affiner et la faire véritablement porter sa cible, c'est-à-dire la postérité. Et du philosophe, l'aura circule à nouveau vers les citoyens mobilisés. Donc, vous voyez, il y a une circulation du savoir et des lumières qui se fait, qui est une expertise de l'opinion publique que Voltaire, dont Voltaire dispose, et qui permet comme ça, finalement, d'épouser la cause. Et finalement, Zola suit ce paradigme. C'est un paradigme qui est reproductible à l'infini. Et c'est Voltaire qui le met en place.
Alors, il y a d'autres affaires, hein, l'affaire Lally Todendal, oui, qui est pour le coup sur notre mode, puisque là, il n'est pas question d'infanticide.
Non, c'est un problème de lettres cachées et d'embastiment. Donc là, c'est véritablement l'arbitraire royal. Lally Todendal, c'est 66. C'est véritablement un arbitraire. Alors, c'est encore une fois une des dimensions qu'on retrouve à la fois dans le conte philosophique, dans les œuvres philosophiques. C'est toujours la lutte contre l'absolutisme et contre ces formes arbitraires du pouvoir.
Qu'il a lui-même subi à deux reprises dans sa jeunesse.
Et tout à fait. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas oublié. On parlait de son désir d'annoblissement, mais il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a été bastonné, embastillé, parce qu'il n'était pas de la bonne classe sociale, si j'ose dire. Donc, dans cette société d'ordre, il a compris quelle était sa place, et cette transgression, pour lui, est une revanche inouïe.
Est-ce que son théâtre, parce qu'il écrit aussi du théâtre, hein, quand même, jusqu'à la période de Ferney, durant la période de Ferney, il joue également du théâtre, ça lui pose d'ailleurs quelques problèmes, parce que du côté suisse, on n'aime pas tellement cet amour pour le théâtre. Mais est-ce que on peut trouver des pièces qu'on dirait aujourd'hui engagées ?
C'est difficile, parce que ce qu'on admire, par exemple, quand Rousseau, on a mentionné cette lettre formidable, je crois que c'est avec Olivier Ferré, cette lettre formidable de Rousseau, la première lettre de Rousseau, je crois que c'est 1745, ce qu'il admire dans son théâtre, c'est sa langue. Et Voltaire consacre un long moment de sa vie fernésienne à la correction et au jugement critique des œuvres de Corneille. Et là, on voit qu'il y a aussi un peu autre chose qui est intéressant pour le théâtre de Voltaire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'égaler les maîtres du passé, il faut les surpasser. Et donc, Voltaire a une approche très critique de Corneille, par exemple. Il défend la Bruyère, Boileau, contre Corneille. Et donc, il apparaît véritablement comme une sorte de génie universel dans tous les domaines, y compris le théâtre. Alors, le théâtre, pour lui, c'est véritablement, je dirais, la consécration publique. C'est ça qu'il aime. C'est le toucher le public par les émotions et par la langue, par la beauté de la langue.
C'est pour ça qu'il veut revenir à Paris pour voir la représentation de sa dernière pièce, Irène.
Tout à fait. Fin mars 1778, il est acclamé sur la scène du Théâtre français. C'est pour lui une sorte d'apothéose. Alors, il refuse la couronne, on lui propose une couronne de laurier, mais évidemment, il la refuse pour des raisons très symboliques. Il est encore en exil, d'une certaine façon. Et donc, on couronne sur la scène un buste de Voltaire. Et ça, c'est un acte tout à fait intéressant parce que ça montre le nouveau statut de l'écrivain dans la société française à la veille de la Révolution française, hein, ce qui est en fait la matrice des futurs intellectuels. Mais ça doit être dissocié d'une autre imagerie voltairienne, c'est celle du Voltaire en Apollon. C'est-à-dire que derrière Voltaire, le masque de Voltaire ou la persona de Voltaire, il y a Apollon lui-même, le dieu Apollon de la vérité. Oui.
Ce dernier moment d'ailleurs à Paris, puisque c'est donc à Paris qu'il va mourir, est intéressant aussi du point de vue qui nous intéresse aujourd'hui, parce que par exemple il rencontre Benjamin Franklin. Donc tout d'un coup, il y a comme une projection en effet vers l'avenir, et une projection même mondiale.
Alors, le séjour parisien est un moment de grand bonheur pour Voltaire. Il dit « Vous allez me faire mourir de plaisir ».
Oui.
Mais en même temps, il n'est pas totalement dupe, parce qu'il sait ce qu'est la célébrité. Il le sait. Il sait que dans 3 semaines plus tard, l'affiche aura changé, que d'autres personnes seront acclamées de la même manière qu'il l'a été. Donc il n'est pas complètement dupe, mais il en est très heureux. Et d'ailleurs, il écrit, c'est une de ses dernières lettres à Frédéric II, qui se termine de façon très émouvante, il dit « Il fallait bien qu'au final, les hommes s'éclairent, quoi. Donc, pour lui, c'est une expérience qui le remplit de bonheur, le dernier moment de gloire. Et véritablement, ensuite, c'est, je dirais, la lente agonie et la maladie qui s'impose.
Et on va se partager son corps une fois qu'il sera mort. Il y a un embaumement de Voltaire, mais on récupère ses organes. Il y a quelque chose d'un petit peu étrange aussi qui se joue à ce moment-là.
Oui, c'est l'anthropologie moderne du corps défunt qui se met en place. C'est assez curieux de voir comment on fait trafic des organes, un peu comme on le ferait des reliques à une autre époque. Alors d'abord, il faut bien comprendre que le corps de Voltaire est occulté. C'est quelque chose dont personne ne veut. Il faut bien comprendre ça. D'une certaine façon, le cerveau est emporté par le pharmacien qui a prêté les herbes de l'embonnement, comme voilà. Il sera exposé dans une officine de pharmacie. C'est assez incroyable, comme j'allais dire presque objet de réclame. Le cœur est emporté par un peu d'autorité par Villette, ce qui fera un petit peu, je dirais, protester les ayants droit. Et le corps, lui, est caché donc à Célière, où on dit même qu'il a été passé sous la chaux et qu'il n'y a plus rien à en tirer, de façon à ce qu'on oublie cela.
Alors qu'il est possible qu'on ait retrouvé le cœur de Voltaire, je crois, récemment.
Alors, oui, ça fait partie, même dans notre inconscient d'aujourd'hui, de cette occultation-apparition de Voltaire, le Voltaire parmi nous. Il y a toujours un doute, vous savez, et c'est très curieux parce que ça parle davantage de nous que de Voltaire. Voltaire n'est plus... mais notre société moderne, qui s'appuie sur l'image de Voltaire, cette image corrompue que je décrivais, a besoin comme ça d'épiphanie de Voltaire. Donc en 1897, par exemple, on va ouvrir le caveau à Sainte-Geneviève, au Panthéon, comme pour s'assurer qu'il est bien là. De même, son cœur, qui est donc lui à la BNF, qui est dans la statue de Houdon, la magnifique statue du Voltaire assis, qui se trouve au premier étage, que tout chercheur de la BNF connaît, a croisé, sans savoir peut-être que le cœur se trouvait là. Et là, évidemment, on a déplacé la statue en 2010, une odeur s'est faite sentir, et ça a tout de suite éveillé des choses extraordinaires.
Et on a pensé peut-être que c'était bien le cœur de Voltaire. Merci beaucoup, Richard Flamin. Pour aller plus loin, je conseille à nos auditeurs, évidemment, votre livre. Il s'appelle « Voltaire à Ferney, adresse à la postérité moderne, 1758-2015 », et il est publié aux éditions Classique Garnier. La compagnie des œuvres, c'est comme chaque jour Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet, Salomé Taforo et Élise Le. Lundi prochain, nous entamons une semaine consacrée à la cinéaste Chantal Akerman. Et demain, c'est la compagnie des poètes que vous retrouverez à cette même heure. Avec évidemment Manu Farine au micro.